Le procureur du roi et M. Gravier se regardèrent assez singulièrement quand ils virent les deux Parisiens dans la calèche et eux comme deux niais au bas du perron. M. de la Baudraye, qui du haut de la dernière marche faisait au docteur un petit salut de sa petite main, ne put s'empêcher de sourire en entendant M. de Clagny disant à M. Gravier « Vous auriez dû les accompagner à cheval ». En ce moment, Gatien, monté sur la tranquille jument de M. de la Baudraye, déboucha par l'allée qui conduisait aux écuries et rejoignit la calèche. « Ah bon !» dit le receveur des contributions. « L'enfant s'est mis de planton. »« Quel ennui !» s'écria Dinah en voyant Gatien. « En 13 ans, car voici bientôt 13 ans que je suis mariée, je n'ai pas eu 3 heures de liberté. »«
Mariée, madame ?» dit le journaliste en souriant.
« Vous me rappelez un mot de feu Michaud qui en a tant dit de si fin. » Il partait pour la Palestine, et ses amis lui faisaient des représentations sur son âge, sur les dangers d'une pareille excursion. « Enfin, lui dit l'un d'eux, vous êtes marié. »«
Oh, répondait-il, je le suis si peu. »
La sévère Madame Piedefer ne put s'empêcher de sourire. « Je ne serais pas étonnée de voir Monsieur de Clagny monter sur mon poney, venir compléter l'escorte, » s'écria Dinah.
« Oh, si le procureur du roi ne nous rejoint pas, » dit Lousteau, « vous pourrez vous débarrasser de ce petit jeune homme en arrivant à Sancerre. » Bianchon aura nécessairement oublié quelque chose sur sa table, comme le manuscrit de sa première leçon pour son cours, et vous prierez Gatien d'aller le chercher à Anzy. »
Cette ruse, quoique simple, mit Madame de la Baudraye en belle humeur. La route d'Anzy à Sancerre, d'où se découvre par échappée de magnifiques paysages, d'où souvent la superbe nappe de la Loire produit l'effet d'un lac, se fit gaiement, car Dinah était heureuse d'être si bien comprise. On parla d'amour en théorie, ce qui permet aux amants in petto de prendre en quelque sorte mesure de leur cœur. Le journaliste se mit sur un ton d'élégante corruption pour prouver que l'amour n'obéissait à aucune loi, que le caractère des amants en variait les accidents à l'infini, que les événements de la vie sociale augmentaient encore la variété des phénomènes, que tout était possible et vrai dans ce sentiment, que telle femme, après avoir résisté pendant longtemps à toutes les séductions et à des passions vraies, pouvait succomber en quelques heures à une pensée, à un ouragan intérieur, dans le secret desquels il n'y avait que Dieu. Hé, n'est-ce pas là le mot de toutes les aventures que nous nous sommes racontées depuis 3 jours, dit-il. Depuis 3 jours, l'imagination si vive de Dinah était occupée des romans les plus insidieux, et la conversation des deux Parisiens avait agi sur cette femme à la manière des livres les plus dangereux. Lousteau suivait de l'œil les effets de cette habile manœuvre pour saisir le moment où cette proie, dont la bonne volonté se cachait sous la rêverie que donne l'irrésolution, serait entièrement étourdie. Dinah voulut montrer la Baudraye aux deux Parisiens, et l'on y joua la comédie convenue du manuscrit oublié par Bianchon dans sa chambre d'Anzy. Gatien partit au grand galop, à l'ordre de sa souveraine, Madame Piedefer alla faire des emplettes à Sancerre, et Dinah, seule avec les deux amis, prit le chemin de Cône. Lousteau se mit près de la châtelaine, et Bianchon se plaça sur le devant de la voiture. La conversation des deux amis fut affectueuse et pleine de pitié pour le sort de cette âme d'élite si peu comprise et surtout si mal entourée. Bianchon servit admirablement le journaliste en se moquant du procureur du roi, du receveur des contributions et de Gatien. Il y eut je ne sais quoi de si méprisant dans ses observations que Madame de la Baudraye n'osa pas défendre ses adorateurs. « Je m'explique parfaitement, dit le médecin en traversant la Loire, l'état où vous êtes resté. Vous ne pouviez être accessible qu'à l'amour de tête qui souvent mène à l'amour de cœur, et certes, aucun de ces hommes-là n'est capable de déguiser ce que les sens ont d'odieux dans les premiers jours de la vie aux yeux d'une femme délicate. Aujourd'hui, pour vous, aimer devient une nécessité. » « Une nécessité ? » s'écria Dinah, qui regarda le médecin avec curiosité. « Dois-je donc aimer par ordonnance ? » « Si vous continuez à vivre comme vous vivez, dans 3 ans vous serez affreuse !» répondit Bianchon d'un ton magistral. « Monsieur !» dit Madame de la Baudraye presque effrayée. « Excusez mon ami, » dit Lousteau d'un air plaisant à la baronne. « Il est toujours médecin, et l'amour n'est pour lui qu'une question d'hygiène. Mais il n'est pas égoïste, il ne s'occupe évidemment que de vous, puisqu'il s'en va dans 1 heure. » À Cône, il s'attroupa beaucoup de monde autour de la vieille calèche repeinte sur les panneaux de laquelle se voyaient les armes données par Louis XIV au néo-la Baudraye. De gueule à une balance d'or, au chef cousu d'azur, chargé de 3 croisettes recroisettées d'argent, pour support, 2 lévriers d'argent colletés d'azur et enchaînés d'or. Cette ironique devise, « Deo sic patet fides et hominibus », avait été infligée aux calvinistes convertis
par le satirique Dozier. « Sortons, on viendra nous avertir, » dit la baronne qui mit son cocher en vedette. Dina prit le bras de Bianchon et le médecin alla se promener sur le bord de la Loire d'un pas si rapide que le journaliste dut rester en arrière. Un seul clignement d'yeux avait suffi au docteur pour faire comprendre à Lousteau qu'il voulait le servir. « Étienne vous a plu, » dit Bianchon à Dina. « Il a parlé vivement à votre imagination. Nous nous sommes entretenus de vous hier au soir, et il vous aime. Mais c'est un homme léger, difficile à fixer. Sa pauvreté le condamne à vivre à Paris, tandis que tout vous ordonne de vivre à Sancerre. Voyez la vie d'un peu haut. Faites de Lousteau votre ami, ne soyez pas exigeante. Il viendra 3 fois par an passer quelques beaux jours près de vous, et vous lui devrez la beauté, le bonheur et la fortune. Monsieur de la Baudraye peut vivre 100 ans, mais il peut aussi périr en 9 jours, faute d'avoir mis le suaire de flanelle dont il s'enveloppe. Ne compromettez donc rien. Soyez sages tous deux. Ne me dites pas un mot. J'ai lu dans votre cœur. » Madame de la Baudraye était sans défense devant des affirmations si précises et devant un homme qui se posait à la fois en médecin, en confesseur et en confident. « Et comment, dit-elle, pouvez-vous imaginer qu'une femme puisse se mettre en concurrence avec les maîtresses d'un journaliste ? Monsieur Lousteau me paraît agréable, spirituel, mais il est blasé, etc., etc. » Dina revint sur ses pas et fut obligée d'arrêter le flux de paroles sous lequel elle voulait cacher ses intentions. Car Étienne, qui paraissait occupé des progrès de Cône, venait au-devant d'eux. « Croyez-moi, lui dit Bianchon, il a besoin d'être aimé sérieusement, et s'il change d'existence, son talent y gagnera. » Le cocher de Dina accourut essoufflé pour annoncer l'arrivée de la diligence, et l'on hâta le pas. Madame de la Baudraye allait entre les deux Parisiens. « Adieu, mes enfants, dit Bianchon avant d'entrer dans Cône, je vous bénis. » Il quitta le bras de Madame de la Baudraye en le laissant prendre à Lousteau qui le serra sur son cœur avec une expression de tendresse. Quelle différence pour Dina! Le bras d'Étienne lui causa la plus vive émotion quand celui de Bianchon ne lui avait rien fait éprouver. Il y eut alors entre elle et le journaliste un de ces regards rouges qui sont plus que des aveux. Il n'y a plus que les femmes de province qui portent des robes d'organdi, la seule étoffe dont le chiffonnage ne peut pas s'effacer, se dit alors en lui-même Lousteau. Cette femme, qui m'a choisi pour amant, va faire des façons à cause de sa robe. Si elle avait mis une robe de foulard, je serais heureux. À quoi tiennent les résistances ? Pendant que Lousteau recherchait si Madame de la Baudraye avait eu l'intention de s'imposer à elle-même une barrière infranchissable en choisissant une robe d'organdi, Bianchon, aidé par le cocher, faisait charger son bagage sur la diligence. Enfin, il vint saluer Dina, qui parut excessivement affectueuse pour lui. « Retournez, madame la baronne, laissez-moi. Gatien va venir, lui dit-il à l'oreille. Il est tard, reprit-il à haute voix. Adieu !»« Adieu, grand homme !» s'écria Lousteau, en donnant une poignée de main à Bianchon. Quand le journaliste et madame de la Baudraye, assis l'un près de l'autre au fond de cette vieille calèche, repassèrent la Loire, ils hésitèrent tous deux à parler. Dans cette situation, la parole par laquelle on rompt le silence possède une effrayante portée. « Savez-vous combien je vous aime ?» dit alors le journaliste à brûle-pourpoint. La victoire pouvait flatter Lousteau, mais la défaite ne lui causait aucun chagrin. Cette indifférence fut le secret de son audace. Il prit la main de Madame de la Baudraye, en lui disant ces paroles si nettes, et la serra dans ses deux mains. Mais Dina dégagea doucement sa main. « Oui, je vaux bien une grisette ou une actrice, » dit-elle d'une voix émue tout en plaisantant. « Mais croyez-vous qu'une femme qui, malgré ses ridicules, a quelque intelligence, et réserver les plus beaux trésors du cœur pour un homme qui ne peut voir en elle qu'un plaisir passager. Je ne suis pas surprise d'entendre de votre bouche un mot que tant de gens m'ont déjà dit, mais... » Le cocher se retourna. « Voici Monsieur Gatien, dit-il. Je vous aime, je vous veux, et vous serez à moi, car je n'ai jamais senti pour aucune femme ce que vous m'inspirez, » cria Lousteau dans l'oreille de Dina. « Malgré moi, peut-être, » répliqua-t-elle en souriant. « Au moins faut-il pour mon honneur que vous ayez l'air d'avoir été vivement attaqué, » dit le Parisien, à qui la funeste propriété de l'organdi suggéra une idée bouffonne. Avant que Gatien eût atteint le bout du pont, l'audacieux journaliste chiffonna si lestement la robe d'organdi que Madame de la Baudraye se vit dans un état à ne pas se montrer. « Ah, monsieur !» s'écria majestueusement Dina. « Vous m'avez défié, » répondit-il. Mais Gatien arrivait avec la célérité d'un amant dupé. Pour regagner un peu de l'estime de Madame de la Baudraye, Lousteau s'efforça de dérober la vue de la robe froissée à Gatien, en se jetant pour lui parler hors de la voiture du côté de Dina. Courez à notre auberge, lui dit-il. Il en est temps encore, la diligence ne part que dans une demi-heure. Le manuscrit est sur la table de la chambre occupée par Bianchon. Il y tient, car il ne saurait comment faire son cours. Allez donc, Gatien, dit madame de La Baudraye, en regardant son jeune adorateur, avec une expression pleine de despotisme. L'enfant, commandé par cette insistance, rebroussa, courant à bride abattue. Vite à La Baudraye, cria Lousteau au cocher. Madame la baronne est souffrante. Votre mère sera seule dans le secret de ma ruse, dit-il en se rasseyant auprès de Dinah. Vous appelez cette infamie une ruse, dit madame de La Baudraye, en réprimant quelques larmes qui furent séchées au feu de l'orgueil irrité. Elle s'appuya dans le coin de la calèche, se croisa les bras sur la poitrine, et regarda la Loire, la campagne, tout, excepté Lousteau. Le journaliste prit alors un ton caressant, et parla jusqu'à La Baudraye, où Dinah se sauva de la calèche chez elle en tâchant de n'être vue de personne. Dans son trouble, elle se précipita sur un sofa pour y pleurer. « Si je vous suis un objet d'horreur, de haine ou de mépris, eh bien, je pars, » dit alors Lousteau qui l'avait suivi. Et le roué se mit aux pieds de Dinah. Ce fut dans cette crise que Madame Piedefer se montra disant à sa fille. « Eh bien, qu'as-tu? Que se passe-t-il? « Donnez promptement une autre robe à votre fille, » dit l'audacieux parisien à l'oreille de la dévote. En entendant le galop furieux du cheval de Gatien, Madame de La Baudraye se jeta dans sa chambre où la suivit sa mère. « Il n'y a rien à l'auberge, » dit Gatien à Lousteau qui vint à sa rencontre. « Et vous n'avez rien trouvé non plus au château d'Anzy, » répondit Lousteau. « Vous vous êtes moqué de moi, » répliqua Gatien d'un petit ton sec. « En plein, » répondit Lousteau. « Madame de La Baudraye a trouvé très inconvenant que vous la suiviez sans en être priée. Croyez-moi, c'est un mauvais moyen pour séduire les femmes que de les ennuyer. » Dinah vous a mystifié, vous l'avez fait rire. C'est un succès qu'aucun de vous n'a eu depuis 13 ans auprès d'elle, et que vous devez à Bianchon. Oui, votre cousin est l'auteur du manuscrit. Le cheval en reviendra-t-il? Demanda Lousteau plaisamment, pendant que Gatien se demandait s'il devait ou non se fâcher. Le cheval, répéta Gatien. En ce moment, madame de La Baudraye arriva, vêtue d'une robe de velours, et accompagnée de sa mère, qui lançait à Lousteau des regards irrités. Devant Gatien, il était imprudent à Dinah de paraître froide ou sévère avec Lousteau, qui, profitant de cette circonstance, offrit son bras à cette fausse Lucrèce, mais elle le refusa. « Voulez-vous renvoyer un homme qui vous a voué sa vie ?» lui dit-il en marchant près d'elle. « Je vais rester à Sancerre et partir demain. »« Viens-tu, ma mère ?» dit madame de La Baudraye à madame Piedefer, en évitant ainsi de répondre à l'argument direct par lequel Lousteau la forçait à prendre un parti. Le Parisien aida la mère à monter en voiture. Il aida madame de La Baudraye en la prenant doucement par le bras, et il se plaça sur le devant avec Gatien, qui laissa le cheval à La Baudraye. « Vous avez changé de robe, » dit maladroitement Gatien à Dinah. « Madame la baronne a été saisie par l'air frais de la Loire, » répondit Lousteau. « Bianchon lui a conseillé de se vêtir chaudement. » Dinah devint rouge comme un coquelicot, et madame Piedefer prit un visage sévère. « Pauvre Bianchon, il est sur la route de Paris. Quel noble cœur !» dit Lousteau. « Oh oui !» répondit madame de La Baudraye. « Il est grand et délicat, celui-là. »« Nous étions si gais en partant, » dit Lousteau. « Vous voilà souffrante, et vous me parlez avec amertume. Et pourquoi ? N'êtes-vous donc pas accoutumée à vous entendre dire que vous êtes belle et spirituelle ? Moi, je le déclare devant Gatien. Je renonce à Paris. Je vais rester à Sancerre et grossir le nombre de vos cavaliers servants. Je me suis sentie si jeune dans mon pays natal. J'ai déjà oublié Paris et ses corruptions, et ses ennuis, et ses fatigants plaisirs. Oui, ma vie me semble comme purifiée.